Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité.
Alors, aujourd'hui, je suis avec Steve Gentis. Salut, Steve.
Salut, mon Jérôme.
Très heureux de te recevoir sur le podcast, sincèrement.
Steve, merci.
Tu es préparateur physique holistique. Déjà, est-ce que tu peux définir ce qu'est un préparateur physique holistique avant de nous de se diriger tous les deux vers le sujet du jour?
Oui, alors, en fait, préparateur physique, on pourrait dire que c'est 50% de mes activités. Et puis... il y a tout l'enseignement, donc tu as employé le terme holistique qui, à mon sens, est celui qui résume le mieux aussi cette approche, cette voie de transmission dans laquelle je m'inscris. Donc holistique qui comprend, qui implique le corps et l'esprit, c'est-à-dire la globalité de l'être, toutes les dimensions que nous portons, la dimension physique, la dimension spirituelle, l'esprit. Après, on pourrait évidemment extendre un petit peu ce qu'est l'approche holistique, mais bon, pour résumer, mon intervention auprès des personnes dont je m'occupe, auprès des transmissions, des enseignements dans lesquels je m'implique, comprennent autant les pratiques physiques via différents biais, hein, le mouvement, la préparation physique, les arts martiaux et d'autres pratiques, et la partie de l'ordre de l'esprit, de l'ordre du mental. Donc là, on va avoir des pratiques de l'ordre de la méditation, des pratiques qui font le pont entre le corps et l'esprit, telles que la respiration. Et puis après, c'est toute une approche qui rejoint des enseignements de traditions plus anciennes, plus ancestrales, philosophiques et de l'ordre de sagesse qui nous parviennent de par nos ancêtres dans différentes régions du monde. Donc on pourrait dire que c'est une approche qui a pour but de permettre d'exprimer pleinement nos potentiels, que ce soit au niveau du corps que de l'esprit.
Tu me parlais un peu au début de l'échange, en off on va dire, de ta volonté de recoller un peu à l'état d'esprit des arts martiaux originaux. Du coup, on est en plein dedans. Cette notion vraiment, comme tu as pu le dire, à la fois philosophique, je lis avec le maître, j'apprends avec le maître, mais également je sais me défendre, je sais me battre, je respecte mon corps, je respecte le mouvement, je respecte la nature. On est en plein dedans.
Ouais, c'est... On pourrait le définir aussi comme une voie intégrale, c'est-à-dire une voie qui ne fragmente pas l'expérience de vie, l'expérience que nous sommes venus faire dans cette incarnation, dans un corps, dans un esprit, donc qui ne fragmente pas les différents aspects de nos êtres. Et ce qui était originellement aussi l'approche dans les arts martiaux, en tout cas dans certains arts martiaux, mais aussi dans l'approche du yoga, c'est-à-dire que c'était des voies qui impliquaient une compréhension, une étude de l'ensemble de ce qu'un être humain déploie au niveau émotionnel, au niveau du rapport avec l'environnement, avec la nature, avec tout ce qui se trouve autour de nous, au niveau du rapport avec les autres, les interactions au sens large, toutes les relations, nous ne sommes pas séparés. Il y avait aussi tout ce qui était les enseignements, donc comme on le disait précédemment, c'était aussi une compréhension, une étude de sagesse, une étude qui nous permettait peut-être déjà de comprendre au niveau intellectuel pour après le laisser infuser dans nos êtres de manière un peu plus profonde, et on pourra prendre l'image du cœur, l'image de la conscience, mais finalement, où est la conscience? Est-ce que la conscience, c'est quelque chose qui est uniquement dans la tête, dans le cerveau, ou est-ce que la conscience, c'est quelque chose de global en nous, ou même quelque chose de global hors de nous, qui nous relie tous? Donc tout ça, c'était des études qu'on retrouve au centre de beaucoup de voies, par les arts martiaux, des voies yogiques, des voies philosophiques aussi. Et finalement, oui, pour moi, je n'invente rien, je ne fais que m'inscrire dans une chaîne de transmission. Les arts martiaux, c'était ma rencontre à l'âge de 4 ans, la chance de pouvoir commencer à aborder le corps, le mouvement, en commençant avec le judo très jeune, grâce à mon père qui lui pratique l'aïkido, m'a mis jeune au dojo et sur le tatami. Et donc ça a été, je pense, le début de prise de conscience, de corps, de choses. Et puis en creusant, en continuant de suivre ces voies martiales, en passant de différents arts martiaux de différents styles, et en grandissant, en voulant approfondir ce qu'étaient les arts martiaux, j'ai forcément commencé à m'intéresser à la philosophie derrière certains arts martiaux, comme le taoïsme, comme le bouddhisme. Il y a des liens, hein, entre la tradition spirituelle et certains arts martiaux. Et puis de là, en fait, apparaît évidemment la dimension de l'esprit, Hein, on va commencer à se questionner sur qu'est-ce que la confrontation, qu'est-ce que le rapport aux autres, le combat interne, les différents archétypes. Et finalement, on arrive à des voies intégrales. Miyamoto Musashi aussi, qui est était un grand sabreur japonais, mais qui a aussi beaucoup écrit en philosophie concernant les arts martiaux, évoque aussi ces voies intégrales où on ne fragmente pas l'existence, l'expression de l'art, de vivre, l'expression artistique, la relation avec les autres, ce que l'on fait de nos vies, ce que l'on fait de nos corps et de nos esprits, eh ben, rien n'est séparé. Effectivement, il y a des voies, des enseignements qui nous permettent d'approfondir cela et de trouver par nous-mêmes. Je pense que ça, c'est un point essentiel lorsqu'on parle d'approche holistique, c'est d'avoir certes des principes et certes des personnes qui peuvent nous transmettre, mais un bon maître est celui qui permet aux autres de trouver leur chemin de par eux-mêmes. Nous sommes chacun, quelque part aussi, nos propres lumières, nos propres maîtres.
Très intéressant, et dis-moi ce que tu penses de ma réflexion que je vais te partager. C'est vrai qu'on a eu besoin en Occident vraiment de tout décomposer, de tout morceler. Typiquement, on le retrouve vraiment avec René Descartes et son animal-machine, qui justement caractérise l'homme comme étant une machine, avec chaque organe comme étant une pièce presque interchangeable et quasiment déconnectée des autres. Aujourd'hui, on le sait, et Pierre Etchart en parle très souvent, une personne que tu connais, que j'ai reçu le podcast, qui est un ami à nous deux, comme quoi aujourd'hui, par exemple, si on prend le foie humain, il n'existe pas en tant que tel. Le foie existe parce qu'il est interconnecté aux autres organes du corps humain. On sait également aujourd'hui que la peau est aujourd'hui un organe. Un organe qui produit notamment des hormones, notamment via la production de vitamine D par le soleil. On sait également que le cœur humain envoie aujourd'hui des ondes qui dépassent le corps humain pour se connecter aux autres. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu besoin, je pense, dans le passé, de segmenter les choses pour les comprendre. Mais je pense qu'actuellement, on est en train de faire justement un pas en avant, voire un pas de côté carrément, pour au final recoller les choses qu'on avait séparées précédemment. Mais c'est grâce à la séparation qu'on a fait dans le passé qu'on peut comprendre aujourd'hui l'interconnexion dont on va parler, toi et moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est un vaste sujet essentiel et que tu soulèves des axes de perception qui sont vraiment importants de repositionner. Comme tu l'as dit, nous sommes en Occident avec une vision occidentale des choses, avec des héritages de certaines pensées, de certaines philosophies, de certains courants. Et puis il y a les empreintes des religions, qu'on soit religieux ou non, pratiquant ou non, forcément, il y a une influence dans nos cultures. Et puis il y a tous les apports de la science, de la physique quantique, des sciences cognitives et aujourd'hui. Et ce qui est, à mon sens, une époque, ce qui fait de cette époque une époque grandiose sous ce prisme-là, c'est la convergence et la rencontre des sagesses ancestrales provenant d'autres régions du monde. On peut parler de l'Asie, mais on peut parler aussi de l'Amazonie, de l'Afrique, avec nos redécouverte via les sciences modernes et la physique quantique et les neurosciences que l'on vient d'évoquer juste précédemment. Donc, il y a ce moment de convergence, il y a ce moment en fait où on prenait, par exemple, si je prends l'exemple de l'interdépendance dans le bouddhisme, eh bien c'est exactement l'intrication quantique dans la physique quantique. Et c'est là où, comme tu le dis, on fait un pas en avant et on va cesser, je l'espère, en continuant de poursuivre ces recherches, ces prises de conscience, parce qu'il s'agit bien de ça, de fragmenter. Et on en revient justement à aussi l'évolution des pratiques, comme tu le fais, comme notre ami Pierre Etchart le fait, ou Pierre Dufraisse, dans laquelle je pense nous nous inscrivons en tant que cette génération qui tâche d'aller plus loin dans certaines compréhensions, de se dire, on doit arrêter de fragmenter le corps, l'esprit, la nature, l'homme, pour finalement tendre vers une évolution plus harmonieuse de nos modes de vie, de la conscience, et finalement de soigner, de guérir des mots MAX qui se perpétuent depuis des millénaires, aussi fondés sur des incompréhensions, de fausses idées et principalement en fait des conditionnements un peu collectifs de ce qu'est l'apparente division, comment je me situe vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, et ce qui, par extrapolation, en fait, chaque division, chaque fragmentation commence en nous, dans notre esprit, et puis se perpétue vis-à-vis de notre positionnement, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, etc. Et si on pousse un peu à l'extrême cette ignorance de la reliance que nous avons tous, en parlant d'interdépendance, eh bien, on arrive à des phénomènes de violence, à des phénomènes d'expression de la violence par une pure inconscience du fait que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous intriqués, interconnectés, qui est aujourd'hui une vérité qui n'est même plus à discuter. C'est-à-dire qu'on peut parler d'énormément de choses et c'est fantastique de pouvoir en parler, mais le fait que nous soyons tous unifiés et reliés et que nous partageons tous la même conscience, le même champ d'énergie primordial est quelque chose qui est totalement avéré. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes poussés aujourd'hui à parler de ça haut et fort pour que nous puissions réaliser de plus en plus l'unité que nous avons fondamentalement tous en tant qu'êtres humains.
Très intéressant. Et tout ça nous porte vers le sujet du jour, à savoir les états de conscience modifiés. Tu as commencé à l'aborder tranquillement. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail par rapport à différentes pratiques que tu as pu expérimenter toi. Pourquoi tu as effectivement voulu expérimenter ces états-là? Comment tu as fait pour les expérimenter? Et la différence qu'il y a, du coup, on verra ça, je pense, vers la fin de l'échange, entre les techniques comportementales, telles que la respiration, telles que la méditation, telles que l'exposition au chaud, au froid ou encore le sport intense aussi, et les techniques dites davantage médicamenteuses, par des plantes, par des pratiques, on va dire, malheureusement peu légales, que tu as pu, toi, je pense, expérimenter dans ton parcours. Et déjà, pour commencer...
Très intéressant. Ton programme, on va naviguer là-dedans.
Merci. Et déjà, pour commencer, j'aimerais que tu nous partages ce qui t'a amené, toi, à découvrir ces états modifiés de conscience-là. Pourquoi tu t'es dit, OK, un jour, je vais tester des psychotropes, des techniques, pour vraiment, potentiellement, m'ouvrir à un monde que je ne connais pas, à une partie de mon cerveau qui, pour l'instant, ne m'est pas accessible consciemment, on va dire.
Très bien. En reprenant la chronologie de mon parcours, je te parlais des arts martiaux, donc en continuant d'évoluer au travers de différents arts martiaux, en approfondissant les recherches autour des origines des arts martiaux, de ces arts martiaux avec leurs ramifications vers des philosophies et vers des sagesses et vers la spiritualité, j'en arrive à commencer à méditer. Aussi de par l'influence de ma mère qui médite, qui pratique la méditation transcendantale, qui a un certain courant de méditation, qui était aujourd'hui d'ailleurs largement étudié. C'est un certain type de méditation. Et aussi l'influence d'une grand-mère pratiquante de tai chi. Tai chi que l'on pourrait aussi définir comme aussi... déjà un art martial interne, mais aussi une pratique de la méditation en mouvement. Donc, il y avait déjà ces influences de par ma famille. Alors, je commence à méditer de manière très instinctive. On commence à s'asseoir en silence et puis juste à se dire, bon, bah, qu'est-ce que c'est la méditation? Qu'est-ce que ça veut dire faire le vide? Donc, il y a une impulsion de méditer et en parallèle de ça, des lectures, des recherches. Et je commence en fait à aller pratiquer dans différents endroits. Dans des centres de yoga, dans des dojos zen, dans des centres de méditation comme Vipassana, avec d'autres amis qui pratiquent aussi la méditation. Donc pour moi, la porte d'entrée de ce qu'est la recherche sur la conscience et sur les ce qu'on peut appeler les états de conscience modifiés, ça a été la méditation. Alors qu'est-ce qu'on entend aussi par état de conscience modifié? C'est tout ce qui n'est, entre guillemets, pas l'état de conscience que nous avons la plupart du temps. Les états de conscience modifiés, c'est très vaste. Par exemple, la psychose, c'est aussi un état de conscience modifié. Donc, tout ça pour dire que...
ou ne serait-ce que la conduite automatique.
Voilà, exactement. Il y a une infinité d'états de conscience modifiés.
Et c'est un état de conscience modifié.
Exactement. C'est pour ça, en fait, on oscille entre différents états de conscience, même en permanence dans la journée. Le sommeil est un état de conscience modifié. Donc, pour vraiment parler de ce qui est le cœur, de ce qui m'a amené à aller vers cette recherche de la conscience, en fait, c'était plutôt... un appel interne assez fort, viscéral, d'une prise de conscience, de vouloir aller plus loin. Donc, c'était quelque chose qui venait des tréfonds de mon être. Et puis, par la pratique, il y a des insights qui se produisent. Et puis, on se confronte à plein de choses. On commence à étudier le fonctionnement de l'esprit, du mental, du cerveau. Et puis, il y en a toujours le poids de notre éducation, des circonstances de vie, des traumas, des mémoires, du conformisme, l'ambition, le plaisir, toutes ces choses en fait qui nous emmènent, qui nous contrôlent quelque part, tant qu'on n'a pas un minimum conscience de nos fonctionnements. Donc la porte d'entrée, ça a été la méditation, et puis j'ai creusé et continué de pratiquer jusqu'au point où, par des rencontres, je me suis intéressé aussi à d'autres biais, d'autres approches de ce que sont les états de conscience modifiés, notamment avec les plantes médecines. Donc, les plantes médecines sont des plantes contenant des substances actives, pour en citer quelques-unes. On a par exemple les champignons qui contiennent la psilocybine. On a l'ayahuasca, par exemple, qui contient un certain type de DMT. C'est aussi l'alliance de plusieurs plantes hein, qui donne la substance active de l'ayahuasca. On a d'autres formes de DMT, par exemple, dans le Bufo alvarius, qui est sécrété par un crapaud. On a la mescaline que l'on trouve dans différentes plantes médecines telles que le San Pedro ou le peyote. Donc, c'est différentes cultures. On a l'iboga en Afrique. Tout ça pour dire que ces plantes et ces sagesses ancestrales sont des choses connues par l'homme depuis des millénaires, depuis des temps immémoriaux et qui étaient au cœur d'anciennes traditions, qui ont toujours été la voie royale, la grande porte vers les autres dimensions, vers les autres mondes. D'ailleurs, même sans substance, hein, on peut parler aussi des traditions chamaniques en Sibérie, notamment où la transe est auto-induite, et la transe est aussi induite par le son et les tambours et les danses. Donc, il y a la respiration aussi. Tout ça pour dire que, voilà, je me suis intéressé de plus en plus à cela, mais peut-être que j'avais déjà réalisé grâce à ces quelques années de méditation que ce n'était certainement pas la recherche d'être plus, d'être mieux. C'était peut-être la recherche d'être moins, d'enlever du conditionnement, d'enlever de l'illusion, parler de cette illusion d'être séparé des autres. Donc, quelque part, d'avoir un autre rapport à la vie. C'est un état d'interaction avec la vie qui est modifié pour aller vers plus de sensibilité, pour aller vers plus de compréhension, pour aller vers plus d'unité avec le monde, la vie, les autres au sens large. Donc, c'est ça un des grands paradoxes que l'on va certainement évoquer autour de cette discussion, c'est que tant qu'il y a un jeu, un moi qui a un désir d'avoir plus, donc un ego quelque part, une représentation du soi, le soi que l'on peut définir comme l'ego, qui veut être meilleur, qui veut être plus, eh bien quelque part déjà à l'origine de cette quête qui pourrait nous amener vers les états de conscience modifiés, on est déjà quelque part hors, on est déjà quelque part à côté. C'est presque un des grands paradoxes de se dire que aborder les états de conscience modifiés, c'est accepter justement de ne plus désirer quelque chose, de ne pas vouloir encore aller hors de nous, de pas vouloir être meilleur, mais au contraire d'enlever, de libérer, d'éplucher des couches pour réaliser cette interconnexion, cette reliance. Bon, après on va pouvoir, je pense, décortiquer et aller dans plusieurs endroits pour que ça soit plus parlant pour nos personnes qui nous écoutent. Mais ce qu'il faut, je pense, retenir, un des points centraux de la recherche dans les états de conscience modifiés, c'est une expansion de la conscience au sens large. Et si l'on devait définir la conscience, ça serait ce champ qui nous unifie tous, qui n'est pas contenu uniquement que dans un individu. Donc, c'est quelque part dissoudre la séparation mentale entre une expérience vécue par un sujet et l'objet de tout son environnement. C'est dissoudre la séparation, dissoudre les frontières entre notre expérience subjective et le reste du monde.
Il y a une théorie super intéressante que j'ai découvert il y a quelques temps en arrière, la théorie du singe défoncé. Je ne sais pas si elle te parle. C'est une théorie qui a été émise par Terence McKeon de mémoire, qui explique tout simplement l'attirance que l'on peut avoir pour les psychotropes justement. Car comme tu as dit, ce sont des substances utilisées depuis des temps immémoriaux. Donc, depuis effectivement l'ère presque préhistorique, je pense qu'il y avait de la consommation de produits psychotropes, par des plantes, comme tu l'as dit. Et d'après sa théorie, simplement, lorsque nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, nous avions pour habitude de suivre les troupeaux d'herbivores pour les chasser, du coup, de les pister, okay.
Je sais de quelle théorie tu vas parler, c'est bien.
Et d'après effectivement cette personne-là, qui je crois est mycologue, il me semble, expert en champignons, nos ancêtres seraient tombés dans les bouses des troupeaux qu'ils suivaient, qu'ils traquaient, de la psilocybine, justement, des champignons contenant cette molécule-là. Et en l'ayant consommé, à nouveau d'après sa théorie, nos ancêtres seraient partis sur un état de conscience modifié, ce qui aurait induit, du coup, par la suite, le langage, la culture et le développement cérébral et cognitif qui nous auraient menés jusque où nous sommes aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette théorie, même si elle n'a pas encore été prouvée, mais effectivement, ça peut faire sens. Lui, comme milieu de client, en tout cas, ça peut faire sens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette théorie-là et, mais tu la connais, d'après ce que tu m'as dit.
Oui, alors je pense que d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont appuyé cette théorie. notamment Terence McKenna, plusieurs grands mycologues, hein, dont Paul Stamets, l'évoque. Ce qui nous intéresse, en tout cas, ce que l'on pourrait explorer quand on parle d'état de conscience modifié, si on prend l'exemple de la psilocybine, le changement de perception, le regard totalement différent de la vie, de l'univers dans lequel nous allons entrer lorsque nous sommes dans l'alchimie, quand nous sommes avec cette substance. Parce que on pourrait dire être sous l'influence d'eux, mais une réelle co-création. C'est-à-dire que la psilocybine en elle-même, elle a cette puissance, elle a ses vertus médicinales. Mais là aussi, la chimie, notre propre chimie, notre propre conscience, notre système nerveux, qui est toute sa biochimie. Donc, c'est l'interaction des deux qui amène donc à cette modification de la perception de la conscience. De là, nous pouvons voyager. De là, nous pouvons naviguer dans une multitude et une infinité de domaines. Prenons quelques exemples. On va pouvoir avoir des compréhensions très fortes sur des choses qui n'ont pas été vécues totalement, qui n'ont pas été totalement comprises à certains moments de nos vies, comme par exemple des traumatismes qui ont été stockés, qui ont été mis sous le tapis, qui ont été refoulés, des traumatismes de notre vécu. Mais on va éventuellement pouvoir même avoir accès à des traumatismes psychogénéalogiques, c'est-à-dire à des... Nous sommes aussi la suite, la continuité de nos ancêtres, et dans notre famille et de nos parents les plus proches. Donc, il y a aussi des choses qui se transmettent d'un individu à l'autre. On peut le retrouver avec l'épigénétique, évidemment via la transmission directe de la génétique et de l'éducation. Donc, dans ces états de conscience modifiés, on a accès à ce type de lucidité, de perception directe. On va être amené à faire face et à confronter ces parts d'ombre aussi. On pourrait utiliser ces métaphores d'aller vers l'obscurité, d'aller vers ce à quoi on ne veut pas faire face, ce que l'on refoule, ce que l'on cache, ou ce que l'on, justement, ce à quoi nous n'avons pas l'habitude de faire face, ce à quoi nous n'avons pas la présence d'esprit, la conscience de faire face, alors que ce sont des choses essentielles. Donc, on va pouvoir pénétrer au cœur de ces mémoires, de ces traumas, et avoir des insights, des compréhensions directes et très fortes sur un rapport, par exemple, justement, à l'éducation, à nos parents, à l'environnement, sentir aussi une sensation directe qui n'est pas de l'ordre du délire quelque part, mais qui est du ressenti, du contact direct avec l'environnement, de sentir de manière physique, palpable, la matière qui compose nos corps en corrélation avec la matière dans l'environnement, dans le corps des autres, éventuellement des animaux, des végétaux, sentir presque physiquement ce que l'on appelle l'intrication quantique, ou sentir un peu cette reliance, le fait que tout se touche, que tout ce qui est aujourd'hui démontré par la science comme étant en interrelation, en interdépendance, eh bien, on va presque aussi pouvoir voyager dans ces sensations physiques palpables aussi, parce qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent évidemment différemment, et les sens s'alchimisent, se connectent les uns les autres. Donc, c'est une perception complètement différente de la vie. C'est-à-dire qu'on est dans le même corps, le même sujet, mais l'expérience de vie est totalement modifiée à ce moment-là. Et de cette modification de l'expérience de vie, il y a des compréhensions et des réalisations très fortes du soin. Donc, il y a évidemment, on pourra aussi en parler un peu plus loin, mais aujourd'hui, on est en train de renouer avec ces traditions, avec ces sagesses et ces puissances médicinales aussi en Occident, notamment dans certains pays comme aux États-Unis. Il y a certaines universités, certains laboratoires qui commencent à remettre les thérapies par les médecines psychédéliques au goût du jour pour la dépression, pour l'anorexie et pour d'autres troubles mentaux très très profonds, très forts. Donc, il y a vraiment cette dimension du soin, de la guérison, mais de la guérison à plusieurs niveaux, corporel, spirituel, parce que les deux étant imbriqués, on va pas soigner uniquement le produit ou le symptôme, mais on remonte jusqu'à la cause. Donc, c'est une forme de compréhension générale qui nous amène aussi au soin. Et pour continuer, parce que ça, on pourra en parler aussi des heures, c'est impossible quasiment de définir l'intensité, l'émotion, la profondeur et la multiplicité de ces expériences. Mais il y a toujours cette synthèse qui revient à la fin, et c'est celle qui nous intéresse aussi, je pense, de manière collective. C'est ce sentiment d'unité, cette ouverture de cœur directe sur l'unité avec le tout, avec les autres, sur le caractère infiniment précieux, sacrée et éphémère de la vie que nous sommes venus expérimenter. Et on renoue avec cet amour pour la vie, cet enthousiasme pour la vie, cette sensibilité pour chaque partie de cette expérience de la vie, une respiration, un regard, un toucher. Tu as des enfants, cette émotion qu'on peut ressentir de partager cet amour, cette connexion si forte avec d'autres êtres, eh bien, ça nous ramène dans cette sensibilité, ça nous ramène dans l'intensité de ce que peut être cette expérience humaine. Voilà aussi pourquoi il y a eu probablement des expansions de conscience, si on renoue avec la théorie que tu viens d'évoquer, par, je pense, même des synapses. On sait que ça agit aussi sur la plastie du cerveau, c'est-à-dire que ça peut engager des mouvements même structurels dans notre système nerveux, dans notre cerveau. Donc ça se joue à plusieurs niveaux, hein, aussi bien physique et que dans la matière, que dans la prise de conscience qui est intangible. Où se situe la conscience? Est-elle dans le corps? Est-elle dans l'esprit? Est-elle dans l'univers tout entier? Donc voilà un peu ce que pourrait être un vécu de l'ordre d'une expérience, d'une cérémonie avec des médecines telles que la psilocybine, qui nous amènerait à des compréhensions suffisamment profondes pour modifier notre vie de manière durable. Et je dirais même pour certains, ça peut être une métamorphose de la manière de vivre, une prise de conscience qui change profondément et fondamentalement notre passage ici-bas.
J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Déjà, je vais préciser ce qu'est l'intrication quantique. Ça fait deux fois que tu en parles.
Oui, je t'en prie.
C'est un élément issu forcément de la mécanique quantique qui explique que deux particules, dès lors qu'elles interagissent suffisamment entre elles, si on les sépare, même de plusieurs milliards de kilomètres, elles vont directement réagir de la même façon en même temps à un stimuli donné. C'est comme si toi et moi, on était séparés d'un million de kilomètres, quelqu'un me brûle la peau, tu ressens une brûlure instantanément. Et ça, c'est une découverte qui révolutionne la science aujourd'hui. Parce qu'on pensait jusqu'à présent, effectivement, que la vitesse maximum de transmission d'informations, c'était la lumière. Là, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Parce que ces deux molécules, ces deux particules sont comme reliées, peu importe la distance qui vient les séparer. Donc toi, tu ressens ça via la pratique des états de conscience modifiés envers les êtres humains, si j'ai bien compris. Alors, sans connecter à toutes les personnes autour de toi.
Alors, c'est pas uniquement aux êtres humains et c'est pas uniquement moi en tant qu'individu. Hein.
Oui.
Je prends juste un exemple parce que je tâche de repasser par certains états qui s'inscrivent de manière indélébile dans l'esprit, quelque part, dans la sensibilité, dans finalement la transformation de l'état d'être au quotidien. Parce que on va dire que ce qui est important, c'est pas tant la cérémonie et le moment du vécu, c'est aussi la manière dont on l'intègre et où notre quotidien se modifie. Parce que pour en revenir aussi à la méditation et à ce que la méditation pourrait amener, à ce que la méditation peut procurer, c'est une transformation dans nos comportements, dans nos manières d'être et d'évoluer et d'interagir au quotidien. C'est pas juste se mettre de manière formelle en posture, en lotus et à rentrer dans une forme d'auto-hypnose ou travailler sur la détente, etc. Ça, c'est très bien. La méditation, pareil, il y a énormément d'études autour de la méditation. On sait que c'est aussi la porte pour notre pharmacie interne, pour plein de raisons et de choses extrêmement utiles. Mais au-delà de ça, c'est surtout pouvoir transposer cet état de conscience, cet état de vigilance, cet état de présence à chaque seconde de nos vies, moment par moment. Avoir une aptitude de régénérer la pensée, être libre des conditionnements, des formatages, même de nos mémoires, même libre de notre identité en tant que quelque chose construit de toutes pièces ou d'un amalgame de souvenirs, une idée du soi, eh bien, c'est d'être libre par ça pour avoir cette présence la plus fine possible avec ce qui est, tendre vers le plus possible de lucidité et de contact avec la vie moment par moment et donc avec les autres et donc avec l'environnement au sens global et profond du terme. Merci d'avoir défini ce qu'est l'intrication quantique. Je veux revenir sur l'interdépendance du bouddhisme qui est, si je la synthétise, l'enseignement et la transmission de sagesse qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres sagesses évidemment, mais du fait que nous sommes tous un, que nous sommes tous unifiés et que nous avons tous un rapport direct les uns avec les autres. C'est-à-dire que chacune de nos pensées, chacune de nos actions, en somme, notre comportement au sens large, a un impact sur l'ensemble du vivant, sur l'ensemble des êtres qui nous entourent. Chaque comportement que je vais avoir de colère, par exemple, à un certain niveau, va impacter la terre entière. Chaque, je prends un exemple tout bête, un objet, un mégot de cigarette, un papier que je vais jeter dans la nature, à une certaine échelle, a un impact sur l'environnement tout entier, pour tout le monde et pour différentes générations. On le sait aujourd'hui. Donc, comprendre de manière intellectuelle, c'est déjà énorme à quel point nous avons une responsabilité, une certaine manière de respecter, de nous respecter, de respecter l'environnement, parce que nous sommes tous cet environnement. Nous sommes autant la nature que l'idée que nous avons de ce qu'est la nature. C'est-à-dire que notre passage à chacun va laisser une trace indélébile dans ce grand cause à effet interminable qu'est la vie, qu'est l'expression de l'univers. Pour reprendre aussi une parallèle que la science commence à observer, c'est la ressemblance, les similitudes entre l'univers connu et que nous sommes en train d'explorer, qui est certainement infime par rapport à une réalité de ce que serait l'univers, mais en tout cas ce que nous commençons à voir de la structure même de l'univers, et les similitudes avec la structure même de nos corps et de nos systèmes nerveux centrales. Donc c'est une espèce de pattern, de répétition, d'organisation de la matière, d'organisation de l'univers à différents niveaux, du plus grand, macro, jusqu'au plus petit, micro et quantique. Donc de ces compréhensions-là, forcément, va découler un comportement qui évolue, une manière de percevoir la vie qui évolue. Et cette perception de la reliance, de l'interdépendance, elle est accrue, elle est extrêmement accentuée lors des états de conscience modifiés, avec les plantes médecines, mais même avec la méditation. C'est-à-dire que ce n'est plus un concept intellectuel, c'est plus une sagesse, c'est plus une philosophie où on dit « respecte ton prochain, sinon tu vas aller en enfer ». C'est un ressenti direct dans le cœur, dans le corps, à tout niveau, au-delà de l'intellect. C'est même impossible de situer à quel point, où se loge la base de ces perceptions. Mais il n'y a plus aucun doute sur le fait que l'autre, c'est moi. Sur le fait que mon action en ce jour va avoir une répercussion sur la terre entière, à un certain niveau évidemment, mais elle va avoir aussi une répercussion dans le temps, pour nos enfants. Et de là découle une responsabilité qui se doit d'être embrassée. Je dois m'inscrire en conscience, dans mon expression de vie, dans ma manière de me comporter, de vivre, parce que je sais au fond de mon cœur, au fond de mon âme, que je suis un des atomes de cet univers et que je suis la même chose fondamentalement que les autres, même les personnes les plus détestables. Au fond, nous sommes unifiés. Donc ça peut paraître beaucoup à emmagasiner parce qu'on n'est pas éduqué en ce sens, mais c'est un des grands, grands intérêts des compréhensions et des perceptions directes des plantes médecines ou des états de conscience modifiés. Parce que c'est une modification totale qui n'est pas intellectuelle. C'est un peu comme dans Matrix. Une fois que tu as pris la pilule rouge, il n'y a pas de retour en arrière. Tu vas penser vraiment différemment lorsque tu vas te mettre en colère contre quelqu'un, lorsque tu vas agir quelque part avec violence, même petite violence, même un petit mot. C'est jamais anodin. Et de cette prise de conscience individuelle peut émaner quelque chose au niveau collectif d'énorme. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est une révolution de la pensée fondamentale et que c'est certainement ce vers quoi nous espérons pouvoir tendre avec de plus en plus de mise en application d'espace, de prise de conscience dans nos vies, parce que c'est quelque chose qu'on a complètement occulté dans notre civilisation, dans notre société.
Encore une fois, plusieurs questions me viennent à l'esprit parce que je n'ai jamais expérimenté ces états-là. Au niveau de la psilocybine, j'en ai consommé certes, mais en microdosing, il y a davantage pour la productivité. La question première qui me vient à l'esprit, c'est ce que tu décris, tu l'as vécu toi. Ça se voit, tu le ressens, tu le partages avec émotion. Mais est-ce que c'est réellement une conclusion, on va dire, ressentie par toutes les personnes qui se plongent dans ces états-là? Est-ce que c'est commun ou est-ce que c'est individuel?
C'est commun, en effet. C'est commun, okay. Chacun, et c'est la beauté de la multiplicité, parce qu'on parle de division. Certes, il n'y a pas de division entre nous, hormis cette illusion de séparation. Mais il y a de la différence, il y a de la multiplicité, il y a une infinité de couleurs, il y a une infinité de tonalités, il y a une infinité d'expression de la vie, d'expression de l'être humain, si on prend nos exemples. Donc évidemment, ma manière de le relater, j'y apporte ma tonalité, ma couleur, ma sensation, et je tâche de le retranscrire, je l'espère, d'une manière fidèle et audible. Mais c'est ce qui revient dans tous les cas, c'est ce qui revient en tout cas dans la plupart des cas, avec toutes les personnes avec qui je peux partager ces vécus, avec qui je peux partager ces prises de conscience, ou quand je me fais aussi le témoin lorsque j'accompagne certaines personnes dans le cadre de la méditation ou d'autres pratiques, où il y a ces insights et ces prises de conscience très très fortes, qui peuvent d'abord se manifester de plein de manières. Parfois, c'est faire face à des très grandes peurs, notamment la peur de la mortalité, des traumas très très forts, ou des choses qui sont pas, je veux dire, on n'est pas chez les bisounours, on parle pas de quelque chose de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est parfois aller loin dans nos ombres, dans nos démons, dans nos parts les plus intimes, celles qu'on ne veut pas voir, celles auxquelles on ne veut pas faire face, et là où il y a souvent beaucoup de peur et beaucoup de résistance. Donc on est loin d'être dans quelque chose de hippie wouhou. On parle de quelque chose de très profond. C'est une voie et c'est tout sauf facile, mais profondément essentiel. Donc ce ressenti d'unité, ce ressenti, je vais utiliser ce mot avec beaucoup de précaution, mais d'amour, parce qu'on n'a pas trouvé de terme aussi puissant aujourd'hui, je pense, que le mot amour. Amour comme cette force qui nous unit, cette force qui réduit l'espace, en tout cas un nom qu'on pourrait mettre sur cette force unifiant toute forme de vie et unifiant tout quelque part dans l'univers. Donc, c'est un mouvement vers cette fréquence que l'on pourrait définir comme amour qui résulte de ces expériences. C'est-à-dire que on arrête de se voir comme quelque chose de fragmenté vis-à-vis du reste de l'univers. On comprend de manière directe. Et ça revient, oui, pour tout le monde. Tous ceux qui ont expérimenté ces ouvertures de conscience, on en revient à la même chose. Alors évidemment, c'est dit avec des mots différents, avec des tournures différentes, mais le seul produit final, c'est l'unité, c'est l'amour, et c'est la paix, et tout sauf la division. Mais c'est pas facile.
Et ce, peu importe la pratique, que ce soit la respiration, la méditation ou les psychotropes.
Oui, parce que, comment dire, quelle que soit la voie ou le biais, il n'y a aucune voie royale. Il n'y a aucune solution pratique miracle. C'est pas du sûr, c'est pas une science exacte. Mais si on voulait revenir à ce que serait la définition de la conscience comme la dimension totale, universelle, la dimension à l'échelle de l'univers qui permet l'expression du tout, du un, de la matière, des autres dimensions, du mystère total de ce qui est l'univers et son origine. Si on voulait le contenir dans ce mot conscience, une fois que j'ouvre les yeux, que je m'extrais de mon illusion d'être séparé du reste de la conscience englobant la totalité de l'univers, forcément ma perception du monde, du tout, se modifie automatiquement. Et ça, cette perception, elle est défrichée, évidemment, par différentes voies. Les différentes voies que tu viens de citer. Mais il n'y a pas de fait tant d'années de méditation ou prends tant d'ayahuasca ou récite tant de mantras, ça va pas t'amener là. C'est juste, chacun va à sa vitesse. Et lorsqu'un certain niveau de compréhension et de ressenti est atteint, même si on prend ce mot encore une fois avec beaucoup de précautions parce qu'il y a presque rien à atteindre, nous y sommes déjà. Quelque part, c'est lorsque je cesse d'être aveuglé par l'ignorance, pour reprendre ce thème bouddhiste, et que je réalise que je suis déjà ce tout. Je suis déjà là, ici et maintenant, dans cette reliance totale. Et ça, il y a différentes voies, il y a différents principes, mais on en revient tous, évidemment, au même point, puisque nous sommes tous l'émanation de cette même conscience première, ou de ce même champ, ou de cette même origine. On pourrait l'appeler la vie aussi. L'expression de la nature, de l'évolution, on peut mettre plein de termes dessus. Mais c'est la même chose.
En neurosciences, on parle souvent du bénéfice à passer par les outils dits comportementaux plutôt que par les outils dits médicamenteux. Typiquement, pour t'expliquer un peu là où je veux en venir, je parlais un peu du biohacking, où entre apprendre à développer consciemment par des exercices, par des protocoles, par des routines, ses capacités à se concentrer rapidement et efficacement, versus prendre de l'L-tyrosine avec de la glutamine et j'en passe, on fait un mélange, on prend ça et c'est génial. Et d'après les recherches en neurosciences, faire des pratiques régulières pour justement augmenter sa concentration, si on reprend mon exemple, est davantage intéressant au niveau du cerveau humain, parce que la plasticité, vraiment là, se met en place. Les connexions synaptiques et neuronales se mettent en place parce que c'est la pratique qui permet de remodeler le cerveau par rapport à l'attente qu'on a du cerveau, contrairement aux simples médicaments qui n'induisent pas justement cette plasticité-là. Et d'après ce que je comprends, c'est pas spécialement le cas dans les psychotropes versus les pratiques comportementales. Ou utiliser un psychotrope, tu l'as dit précédemment rapidement, mais j'ai saisi un peu ce mot-là, induirait également une modification de la structure cérébrale. Tout comme du coup la respiration, encore la méditation le ferait.
Alors, encore une fois, apprendre avec évidemment du discernement, parce que moi j'ai une compréhension de certains mécanismes au niveau de la science, au niveau de la structure, qui est, on va dire, suffisant par rapport à ma transmission et mon enseignement, mais je me positionne évidemment pas comme un neuroscientifique. Donc, aujourd'hui, ce que j'évoque là, notamment en termes de l'engagement de la plastie sur le cerveau, sont évidemment des choses avérées. Après, te décrire très précisément les mécanismes, évidemment, je ne le pourrais pas. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, même si ça, c'est des choses passionnantes qui m'intéressent de comprendre, mais ce qui est pour moi le cœur et l'importance de ce que je tâche de transmettre et de véhiculer dans mon travail, je peux dire, c'est au-delà de tous ces mécanismes, comment est-ce que ça va impacter ta vie et celle des autres? Comment est-ce que ça va impacter ton bien-être, le bien-être de ta famille, le bien-être de tes proches, le bien-être des gens que tu aimes? Et si on laisse rayonner ces cercles, le bien-être collectif, la conscience collective. Mais évidemment, il semblerait que certaines médecines, je les appelle vraiment médecines, plantes médecines, c'est pas à mettre dans la même catégorie que ce qu'on appelle les drogues, etc. Malgré que ça soit des substances exogènes influençant l'état de conscience, il y a une expérience, un vécu suffisamment fort pour que la plastie du cerveau soit engagée. En tout cas, qu'il y ait une modification comportementale durable. Ça, c'est clair et net. Donc ça, c'est un aspect hyper intéressant. Maintenant, on a vu quelque chose de très vaste, de très universel dans l'exploration des états de conscience modifiés. Mais évidemment, on pourrait descendre dans une multitude de sous-registres. Et évidemment que la méditation, il y a une infinie, enfin, il y a plein de types de méditation que ça pourrait arboriser vers la préparation mentale, la visualisation, l'hypnose. Je veux dire, il y a plein de registres de différents états de conscience modifiés avec des applications bien précises pour la performance, pour la productivité, pour régler certaines choses. Et ça, c'est fantastique. Simplement, pour revenir au fait de ne pas fragmenter les choses, ma compréhension actuelle m'amène vers une pratique et une transmission de quelque chose de beaucoup plus englobant. Alors évidemment, on peut avoir des applications spécifiques en fonction des profils et des personnes à qui on veut transmettre certains outils concrets. Mais le problème quelque part, en tout cas pas le problème, mais le discernement qui, je pense, est important de faire, c'est que ce que pourrait être la méditation authentique, c'est pas quelque chose qui va nous amener à plus de productivité, à être moins malade, à être dans un meilleur mood. Non, c'est la capacité à avoir une perception totale de mon environnement, de la vie, moment par moment, sans jugement, sans interprétation. C'est élargir le spectre en permanence, c'est-à-dire être aussi bien conscient de mon corps et de toute son activité, de toutes mes sensations physiques, sensorielles, des sons, mon environnement à proche, moyenne, longue distance, de la vue, de mes pensées, du mouvement, de tout l'environnement. Et c'est de réussir à être au contact total, moment par moment, de tout cet environnement. Et ça, c'est ce qui pourrait être, en réalité, la méditation. C'est cet état de présence totale. Mais il n'y a pas de bien ou de mal. C'est un état de présence. Et effectivement, je suis convaincu que, et ce n'est pas quelque chose que je suis seul à évoquer, que les moments intenses de cérémonie de prise de plante médecine, c'est pas pour tout le monde encore une fois, mais peuvent ouvrir cette porte de ce champ de conscience de manière assez vaste et durable. C'est-à-dire que ça va pas tout régler, mais ça peut intensifier, améliorer notre capacité à être beaucoup plus au contact de la globalité de notre environnement sans être dans cette prison du mental qui est en permanence prisonnier du temps, prisonnier du jugement, de l'interprétation, de la surcogitation, de la projection ou du ressassement. C'est de balayer tout ça et de le voir comme la perception totale de mon expérience de vie. Et aujourd'hui, on le sait, notre expérience de vie dépend totalement de notre état de conscience.
Tu parles du temps, je vais te saisir au bon parce que j'ai une vraie question par rapport à ça. J'entends très souvent parler de la distorsion du temps quand on est justement dans les états de conscience modifiés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ta perception du temps diffère selon un état de conscience, on va dire classique, normal, quotidien, versus la méditation, versus la respiration, versus l'ayahuasca et j'en passe?
Oui, totalement. Mmh. Totalement. Alors, il m'a été donné d'expérimenter aussi une expérience de mort imminente, notamment avec une pratique de méditation très, très poussée. De respiration, d'accord. Pardon. De respiration et en tout cas d'apnée très, très poussée.
Et
je vais pas la citer volontairement. Bon. Parce que... hein? Ouais, je te dirai. Non, c'est juste que, en fait, je veux surtout pas, comment dire. C'est juste que c'est pas intéressant. Je vais dire pourquoi. Hein. Parce que juste cette expérience de mort imminente vécue au moment de la syncope, elle n'était pas forcément liée à cette pratique en particulier. Ce que je veux dire, c'est qu'on a ce côté très occidental pour dire cette pratique va t'amener là, cette pratique va t'amener là, ça va t'amener là. C'est beaucoup plus complexe et simple à la fois que ça. Certaines perceptions différentes, je change ma paire de lunettes et je vois le monde et l'expérience de vie différemment. Bon, et ça va modifier mon interaction avec la vie de manière durable. Bon, dans cette expérience de mort imminente, j'ai vécu une sortie de corps, une dissolution, et comme beaucoup le relatent aussi dans les expériences de mort imminente, une paix totale. Alors, je suis en paix avec la mortalité, c'est quelque chose que j'ai pu embrasser aussi grâce à la méditation, grâce aux expériences aux états de conscience modifiés, aux plantes médecines. Le fait d'embrasser cette mortalité, d'être en paix avec la mortalité, être en paix avec la finitude de cette identité, contenu dans le flux éternel de la vie, la fin de cette personne qui s'appelle Steve Gentis, sa dissolution dans le grand flot de la vie, c'est quelque chose pour moi qui est totalement naturel. Je veux dire, c'est juste la suite logique et c'est complètement OK, cette mortalité. C'est pas évident pour tout le monde, au début, forcément. La mort, ça reste l'inconnu, ça nous fait peur. Mais le fait d'être en paix avec cette mortalité, je pense, m'a d'autant plus rendu libre le moment où je me suis senti partir, le moment où je me suis senti mourir. Il y avait ces lumières, cette paix infinie, la sensation de quitter ce corps physique et de se répandre dans ce champ unifié, ce champ sans séparation. Et là, oui, il y avait une altération complète de la perception du temps. Donc, on en revient à qu'est-ce que le temps ? Le temps horloge, le temps qui nous permet de nous repérer, et d'avoir cette discussion que l'on a là, d'organiser nos vies. Mais le temps en tant que tel, en tant que dimension, d'en avoir une expérience objective, c'est extrêmement difficile parce que selon l'état dans lequel on est, justement, la perception du temps, elle est complètement différente. Et pour une même période, le fait que je sois dans ma tête en train de cogiter ou sur Instagram en train de scroller ou en train de jouer avec mon enfant ou en train d'être avec des êtres chers, etc., c'est des perceptions complètement différentes, évidemment. Et je pense que de faire l'expérience d'état de conscience modifié suffisamment fort nous permet aussi de réaliser ce que pourrait être le temps et une gestion du temps différente, de comprendre que le temps aussi en tant que mémoire, passé, présent, futur, c'est quelque chose de très mental, de très psychologique, qu'il est important de connaître pour s'organiser, mais que le fait de vivre avec la mémoire en permanence avec le passé, ou de vivre en permanence avec le futur, nous extrait du moment présent. et que ça, c'est aussi en soi une source de souffrance. Et que tous ces états qui nous amènent assez proches de la mort nous resensibilisent d'autant plus à la vie et à l'aspect infiniment précieux de cette vie parce qu'elle est éphémère. Et paradoxalement, plus on a peur de manquer du temps et on remplit nos vies pour faire plus avant la fin inévitable qu'est la mort, plus quelque part on manque l'instant présent, cet instant de l'ici et maintenant où j'ai cette capacité d'expérimenter la vie avec toute ma sensibilité, avec toute mon ouverture, tous mes sens. Et voilà pourquoi je dirais que la perception du temps altérée, différente, encore une fois, elle est diverse en fonction de chaque sujet faisant une expérience. Mais il y a aussi cette modification, je pense, du rapport au temps. On comprend que cette expérience éphémère, eh bien, je vais la mettre à profit d'une manière beaucoup plus consciente. Mais en même temps, je vais avoir potentiellement beaucoup moins d'attachement pour le passé. J'embrasse cette compréhension du fait que le passé n'existe plus et que mon présent ne doit pas être forcément influencé par mes souvenirs et mes mémoires. Je dois réussir à redécouvrir la vie moment par moment. On en revient à la présence, à la méditation.
C'est passionnant parce que neurosciences, on parle souvent d'espace péripersonnel et extrapersonnel. Le péripersonnel, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace que tu as à portée de main. C'est ton empan, on va dire, physique. L'empan, c'est tout simplement ce qui sépare tes deux doigts les plus opposés sur la main. C'est avec quoi tu peux prendre des choses. Là, c'est l'empan physique. C'est avec quoi tu peux prendre des choses vraiment à portée de bras quand tu tends tes bras. Ton envergure, en quelque sorte. Donc, l'espace péripersonnel, c'est l'empan physique plus tes ressentis internes, tes respirations, tes ballonnements potentiellement, ton maux de tête, tes douleurs physiques, tes blessures et j'en passe. Et tout l'espace dont je viens de parler est médié par la sérotonine. La sérotonine, justement, c'est le neurotransmetteur, comme tu l'as dit précédemment, de l'ici et maintenant. Versus la dopamine, tout ce qui est en dehors de mon espace péripersonnel, tout ce que je veux atteindre. Par exemple, si on reprend le cas de nos ancêtres, un fruit sur un arbre, c'est un espace qui est extra-personnel. Je veux l'atteindre. Et là, la dopamine se met en place pour générer le mouvement et l'action nécessaire et la motivation nécessaire pour récupérer ce fruit qui va me donner de l'énergie. Donc, je pense que les deux sont intéressants. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'éléments que l'on veut atteindre sans pouvoir les atteindre que ça crée la frustration dont tu as parlé précédemment. Autant à l'époque, tout était très simple. Qu'est-ce que je veux? Je veux un fruit. Je vais le chercher. Il y a un prédateur. Il y a du cortisol qui génère. Je pars. Et ça s'arrête là. Aujourd'hui, on veut tout. On veut la voiture du voisin. On veut typiquement l'augmentation. On veut atteindre tel élément, tel objectif. Mais on ne peut pas toujours le faire. Et justement, je pense que ce champ des possibilités qui se présente constamment à nous génère la frustration dont tu as parlé précédemment, qui empêche justement ce retour nécessaire, vital, presque catalyseur en quelque sorte, catalytique, pardon, à la sérotonine. Et d'après ce que je comprends, effectivement, les états de conscience modifiés permettent justement de retrouver l'état de l'ici et maintenant, qui est nécessaire à la fois pour comprendre la psyché, et aussi pour se ressourcer et se régénérer.
Merci beaucoup de faire ce rappel à, scientifique, physiologique. Je pense que là, on est, tu vois, dans un exemple de l'intérêt aujourd'hui d'avoir différents prismes et différentes données et différents domaines pour nous amener à des compréhensions de plus en plus profondes, de plus en plus subtiles de tous ces mécanismes. Donc, on a l'axe des sagesses ancestrales. On a l'axe de l'expérience directe que j'ai un peu plus évoqué là lors de cette conversation et de l'expérience directe du vécu de par mon expérience, mais aussi du vécu en observant l'expérience des autres autour de moi de manière directe et de par les échanges, etc. Et puis, on a le retour d'expérience de la science. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir tous ces différents langages, tous ces différents domaines qui nous amènent à pouvoir prendre conscience, justement, et avoir des compréhensions de plus en plus profondes, de plus en plus subtiles sur ces mécanismes. Je dirais que c'est certainement la puissance de notre époque, c'est aujourd'hui d'avoir tout cela à notre portée pour s'éduquer, pour que ça pénètre dans nos esprits, peut-être d'abord de manière intellectuelle et qu'on laisse infuser en nous, mais que de cette compréhension d'abord intellectuelle à cet étage, eh bien, ça nous amène vers l'état du chercheur individuel, l'état de l'explorateur, de cet état de se mettre en quête, de se mettre dans un processus d'investigation de ce qu'est la vie, d'investigation de ce que nous sommes, éventuellement de ce que nous sommes venus faire sur cette terre, du sens qu'a la vie, et l'impulsion aussi de vouloir développer une aptitude à l'auto-analyse, à l'auto-investigation. Donc, de comprendre comment on fonctionne. Voilà, avoir des petites bases en physiologie, éventuellement qu'on va pouvoir pousser en science, en neurosciences ou en physique quantique. Mais aussi que cette compréhension et ce monde des idées, cet intellect, nous incite à avoir ces expériences directes par les pratiques de la méditation. Alors, les plantes médecine, c'est quelque chose qui est au centre de beaucoup de sociétés depuis des millénaires, qui revient en Occident grâce au merveilleux travail de certains scientifiques qui démontrent à quel point les aspects thérapeutiques sont puissants et indiqués dans bien des cas. Donc, c'est merveilleux aussi qu'on ait ce retour aussi de compréhension et d'utilisation des médecines psychédéliques. Mais c'est pas forcément pour tout le monde, en tout cas si on n'est pas dans les cadres propices et sérieux et intègres. En revanche, la méditation, c'est quelque chose que je ne peux que recommander et c'est vraiment une invitation que je ne peux que réitérer à tout le monde, de se mettre en état, en tout cas de chercheur, de recherche, d'auto-investigation sur lui-même. Et le cadre de la méditation est un cadre fantastique pour avoir cette vision de l'aigle, cette vision à la troisième personne, où je vais commencer à pouvoir m'observer avec de plus en plus d'objectivité et de lucidité sur ce que je suis, toute ma construction depuis ma venue au monde, mon éducation, mes premières expériences de vie, comment je me suis façonné, ce que j'ai reçu comme éducation aussi à l'extérieur par mes cercles proches, et puis comment ma personnalité a commencé à se constituer, hein, cet amalgame, cette construction que l'on appelle l'ego. L'ego, quand je commence à avoir conscience d'un soi, d'un moi, qui est cet amalgame plus ou moins conscient d'expériences heureuses, d'expériences malheureuses, de conformisme, de formatage, d'idées sur la vie, de croyances, de schémas plus ou moins limitants. Et finalement, je deviens cette entité, je deviens cette personne, je deviens ce personnage ou ce personnage avec ses différents masques auxquels je crois. Je crois fondamentalement que je suis ça et je deviens ça, avec tous les mots aussi MAUX que cela comporte, évidemment. Donc cette illusion du soi, si on reprend un terme provenant de certains enseignements anciens, et de réussir, donc c'est même pas de réussir, c'est en tout cas d'avoir la faculté à développer cette lucidité sur soi, cette auto-analyse moment par moment dans la vie, eh bien ça serait ça aussi l'expression concrète et fonctionnelle de la modification de la conscience et de l'implémentation de la méditation comme une hygiène quotidienne. Parce qu'il est vrai, c'est quelque chose qui porte ses fruits à partir du moment où on le répète, hein, pour plusieurs raisons que tu as aussi évoquées, physiologiques, cognitives et autres. Donc de l'incorporer dans sa vie comme une hygiène de vie fondamentale, au même titre que se laver les dents, se laver le corps, et bien méditer, c'est une manière de prendre soin de soi dans la dimension spirituelle, si j'ose employer ce terme. Et finalement, il y aura personne qui ne pourra rien pour nous. Nous sommes le seul capitaine à bord, nous sommes le seul apte à prendre conscience de ce petit personnage, de cet ego, de cette personne que l'on a construit, que l'on a co-construit avec nos expériences de vie. Et de là, réussir à délier, soigner, éventuellement libérer les facteurs limitants et réaliser qu'en fait, on peut être ce que l'on veut, on peut être ce que l'on décide d'être, on peut être créateur de nos vies à 100%. Évidemment, on est en interaction avec l'environnement, on a des influences et on a des gens qui sont dans des circonstances de vie beaucoup, beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais malgré tout, je reste le seul maître à bord. Et mon état de conscience, ma méditation quotidienne et permanente me permet donc de transformer, de réinventer ma vie moment par moment et potentiellement d'être le créateur de tout ce que je veux, de toutes les dimensions que je veux voir émerger et émaner dans ma vie. Mais c'est presque lié intrinsèquement, c'est même totalement lié intrinsèquement à un certain niveau avec cette conscience d'être relié avec le tout. Et donc, ça implique un certain respect pour la vie au sens large et de toutes les formes de vie.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les bienfaits de la méditation ont été prouvés et éprouvés par la science. Plusieurs études en parlent, c'est vraiment confirmé à 100%. Mais comment conseillerais-tu à une personne qui n'a jamais pratiqué ou qui a essayé de pratiquer la méditation sans succès, autrement dit sans réussir à s'y tenir dans la durée, qu'est-ce que tu dirais pour qu'elle puisse commencer? Quels seraient tes conseils, toi, de retour d'expérience pour faire le premier pas nécessaire à enclencher potentiellement une habitude par la suite?
Alors, je dirais que ce que l'on appelle la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, pleine présence, mindfulness, un terme anglo-saxon, qui est une méditation laïque, n'est pas reliée, par exemple, comme d'autres méditations comme le zen ou le vipassana, qui sont d'autres courants méditatifs extrêmement puissants. Bon, ça dépend toujours de la manière dont c'est transmis, du cadre, mais qui sont des méditations très transformatives, au sens large, hein, puisqu'on a la mise en pratique, la mise en conscience de justement si on prend l'exemple du zen ou du vipassana, quelque part les enseignements du bouddhisme sur l'amour universel, sur l'interdépendance, sur l'impermanence sont expérimentés de manière directe dans l'expérience de la méditation par les assises formelles, les moments de silence, etc. Bon, ça peut être vraiment des voies hyper intéressantes. Par exemple, le vipassana, il y a des centres vipassana un peu partout dans le monde, des retraites vipassana. C'est quelque chose qui peut être très transformateur pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent d'ores et déjà aller vers un contact un peu plus profond avec la méditation. Après, pour en revenir à la pleine présence, à la pleine conscience, à la mindfulness, aujourd'hui, il y a des centres pour cela. Il y a des applications, hein, si on utilise des technologies modernes. Il y a par exemple l'application de Sam Harris, Waking Up, qui est très bien. Il y a l'application en anglais. Il y a Petit Bambou, je pense, en France, qui est une bonne application aussi pour le téléphone. Je veux dire, voilà, il y a des applications, il y a des livres. Je prends par exemple Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est un ouvrage de référence, un véritable livre de chevet aussi pour s'initier progressivement à la méditation, parce qu'il y a plusieurs tomes et aussi la mise en pratique justement du pouvoir du moment présent. Donc voilà, on a des lectures, on a des applications. Je dirais que c'est presque l'utilisation de ces différents biais pour nous aider au quotidien. Et puis il y a la pratique formelle. Moi, je conseillerais de s'octroyer ne serait-ce que 5 minutes par jour. Alors ça peut être au réveil, c'est un moment propice, juste sur le bord du lit lorsqu'on se réveille, ou un moment de calme dans la journée, ou juste avant de se coucher, et s'octroyer, ne serait-ce que pour commencer, ces 5 minutes, 5, 7, 10 minutes, même 3 minutes, hein, mais vous comprenez, on comprend bien, c'est de faire attention à cet espace, ne serait-ce que quelques minutes dans la journée où je vais être d'abord dans une posture formelle, c'est-à-dire assise, et je vais, dans cet instant, faire corps avec tout ce qui est. Je vais recevoir. Je vais pas chercher à faire le vide, à calmer mes pensées, à lutter contre, mais bien au contraire, à faire une expérience totale et directe du moment, de l'instant, aussi bien de mes pensées que de mon corps, que de l'espace autour de moi, et sans jugement, sans étiquetage. Et commencer à observer un peu le mécanisme de la pensée. Hop, une pensée se manifeste, apparaît dans mon esprit, même si au début il y a énormément de pensées, bah, réussir à développer cette observation aussi des pensées comme une manifestation qui n'est pas différente du reste de l'environnement. C'est-à-dire que j'entends un son qui se produit, une voiture qui passe, un klaxon, il émerge dans son impermanence, boum, un klaxon, bah, il y a ce bruit, et puis il disparaît. Et ben, pouvoir faire une expérience aussi directe du mécanisme des pensées. Une pensée se manifeste. Et si on continue de l'observer, essayer de regarder en fait jusqu'où elle va et jusqu'où elle disparaît. Éventuellement, voir un espace entre les pensées. Hop, une autre pensée se manifeste. Continuer de l'observer et de la voir disparaître. Mais au même titre que les manifestations physiques, une sensation de fourmi dans les mains, de chaleur ou d'être fatigué ou d'être en forme. On se comprend, c'est d'avoir un moment où l'expérience et les perceptions se fait intense, où je vais affiner ma perception directe de la vie, finalement, au sens total. Donc ça, c'est un bon moment, un bon moyen de commencer dans la méditation qu'on appelle la pleine présence. Et c'est un cadeau. Je veux dire, c'est vraiment se faire ce cadeau de prendre rendez-vous avec soi-même, de prendre rendez-vous quelque part avec la vie et la présence, ne serait-ce que quelques minutes par jour, et l'ancrer dans quelque chose de quotidien. Et là, sans chercher, sans attendre, éventuellement, la magie opérera. La magie de ce qui est, et la magie de la présence, de la conscience.
Ce qui est super intéressant avec ton, entre guillemets, protocole, ton approche plutôt, le terme est plus juste, je trouve, c'est peut-être que tu parles jamais d'objectif de résultat. ce n'est pas cette notion de tenir 10 minutes sans ne penser à rien du tout. Et souvent, c'est l'écueil dans lequel on tombe dans la méditation, et c'est souvent l'image que l'on en a, cette notion de « je m'assois et je ne pense à rien ». Et là, le réflexe naturel de toute personne, c'est de se dire « je ne peux pas le faire ». Donc, je me place d'entrée de jeu en situation d'échec vis-à-vis de la méditation. Sauf que, comme tu l'as dit, la méditation, c'est un objectif de moyens. C'est se donner les moyens d'observer ses pensées. Du coup, il n'y a pas de notion binaire de « je réussis » ou de « j'échoue ». C'est « je me pose », je me place, j'observe ce qui se passe et je tâche et je tends aussi de plus en plus à passer de l'extérieur à l'intérieur. Tu l'as dit, j'entends un klaxon, ok, je le laisse passer, je reviens à moi. Cette notion, à nouveau, on l'a vu précédemment, hein, de passer de la dopamine à la sérotonine. Pour être capable, comme on l'a vu précédemment, du coup, tout se regroupe, d'être davantage dans un mode sérotonine au quotidien, qui est propre à l'introspection, propre à l'écoute de soi, propre à la concentration également, propre à l'efficacité, plutôt qu'un mode dopamine qui est constamment tourné vers l'extérieur et vers potentiellement une dépense d'énergie qui sera distribuée vers des choses qu'on ne pourra pas atteindre malheureusement et qui nous placeront à terme dans un état de frustration tel que tu l'as très bien décrit. Donc j'aime beaucoup cette approche de justement, je me place et j'observe ce qui se passe. Et je réitère.
Et pour extrapoler ce que tu dis, éventuellement dans la répétition jour après jour, de cet état de présence, de cet état de contact avec ce qui est, c'est-à-dire qu'on réduit finalement la séparation entre l'objet et le sujet, émergeront éventuellement des compréhensions, des réalisations de la manière dont on se situe, hein, par rapport au monde. Et où est-ce que se situe finalement la conscience, où est-ce que se situe le penseur? Eh bien, c'est aussi petit à petit de, sans justement chercher à chasser les pensées, à faire le vide, sans être en force, c'est finalement de changer, hein, ce prisme de perception et de voir que le penseur, le jeu, il a sa propre manière de percevoir la vie, mais que fondamentalement, je ne suis pas ce jeu. Je suis au-delà de ce jeu que je comporte en moi-même. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi, mais c'est aussi ce qui compose chaque être et ce qui certainement nous unit. Cette dimension beaucoup plus vaste que celle de la pensée, nous y avons accès en permanence. À partir du moment où on va laisser le silence s'inviter dans notre esprit, pas en force, pas en cherchant à le provoquer, ce silence va nous amener finalement à cette dimension de nos êtres beaucoup plus vaste, ample que le penseur, le jeu. Et c'est là en fait où il faut tâcher d'être clair, c'est que tu parlais du fait que je suis pas en train de souvent de dire bah voilà, c'est en voulant être un meilleur méditant, c'est pas en voulant atteindre un objectif qu'on y arrive, c'est parce que il y a rien à atteindre, c'est déjà là. Et tant qu'il y a un jeu, je peux pas atteindre l'espace au-delà du jeu, puisque je perçois encore la vie par le prisme du jeu. Donc c'est de s'extraire et de voir le jeu comme un objet de l'environnement. Et donc là, la conscience, elle a une expansion en fait beaucoup plus justement vaste que ce jeu qui perçoit le monde. Il n'y a plus que le monde. Mais c'est pas quelque chose qui se provoque par la volonté. C'est presque un accident de la conscience, un retour à l'état fondamental de ce qu'est la vie, cette unité et cette totalité. Et autre chose, ah oui, c'est aussi une non-résistance à ce qui est. Souvent, le mécanisme de la pensée humaine, le mécanisme égotique, égocentrique, qui n'est pas à combattre justement en force, mais plutôt à comprendre, a une forme de résistance par instinct de survie, toujours résister à tout, se défendre, hein, un petit mammifère que nous sommes dans la peur, se protéger de la mort, se protéger de l'agression, sous toutes ses formes. Et finalement, ce mécanisme de défense dégénère et devient agresseur lui-même aussi, agresseur envers soi-même et envers les autres. Ça, c'est un autre registre. Mais tout ça pour dire que ce moment d'espace que l'on pourrait, que l'on devrait s'accorder chaque jour pour notre bien et pour le bien commun, nous permet d'embrasser la non-résistance à ce qui est et de comprendre que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, en quotidien, nous sommes en résistance. On vit quelque chose de dur ou de moins dur, peu importe, et on est déjà en train de résister, alors que c'est la réalité de ce qui se produit. Que ce soit quelque chose de dramatique, que ce soit quelque chose de merveilleux, le fait est. Et de développer une non-résistance, d'aller avec le flot de la vie, aller vers cette acceptation, tout de suite fluidifie l'existence. Tout de suite transforme, c'est très transformateur de cesser de résister à ce qui est. Et ce moment d'espace, ce moment de silence, d'entrée, où on entre dans l'état et la pratique de la méditation, c'est la découverte du fait que c'est lorsque je lâche prise, c'est lorsque je ne résiste pas à la vie que, paradoxalement, je suis le plus puissant, le plus en possibilité de déployer mon potentiel et mon champ des possibles. Parce que l'énergie que l'on dépense à résister à ce qui est colossale.
Je profite, tu parles beaucoup de changement presque d'identité au final, suite à ces pratiques-là. Est-ce que ce changement intervient immédiatement à la fin d'une pratique? Là, je pense notamment aux psychotropes. Ou est-ce qu'il faut vraiment répéter les processus vraiment d'introspection, de changement d'état de conscience et j'en passe, pour qu'on s'imprègne réellement de la nouvelle identité que nous procurent les états de conscience modifiés que tu as pu trouver par ces pratiques?
Alors là, il y a beaucoup de points essentiels. Déjà, c'est différent pour tout le monde.
Bien sûr.
Tu emploies le terme identité et c'est très important d'en parler. Donc, un des pièges principaux et qui va avec la subtilité et la force de l'ego quelque part, ça serait de se déconstruire d'un côté pour se reconstruire de l'autre. Donc finalement, je quitte une illusion. Et avec la méditation, les pratiques dites spirituelles, hop, je me construis une autre identité. Et éventuellement, je tombe dans un des plus grands pièges qu'on pourrait définir comme l'ego spirituel. C'est-à-dire que je crois avoir atteint un autre état de conscience, à être plus éveillé, à avoir une perception plus fine des choses. Et parfois même, j'ai une perception plus fine des choses. Et je me reconstruis un ego plus spirituel, un ego spirituel, et je me réenferme dans une autre identité. Et en plus, une identité qui devient imbue d'elle-même d'autant plus et qui croit savoir. Grand risque. Je dirais pas que c'est une nouvelle identité, mais c'est d'avoir en permanence la superposition de notre compréhension de l'identité que nous avons, notre ego, éventuellement en l'ayant allégé, en l'ayant soigné, en l'ayant libéré de traumatismes, de schémas limitants, de croyances, de conditionnements. Donc, elle est toujours là, mais elle est plus libre. Elle est libre, en tout cas, de se réinventer et d'être en mouvement, au même titre que le mouvement. Et comme le disait Varela, nous sommes un processus à bien des niveaux. Donc finalement, c'est juste de réaliser que cette identité, elle est un processus et la laisser aller avec le mouvement de notre trajectoire et finalement le mouvement de la vie. Et avec aussi cette conscience, au-delà du penseur, cette conscience, en fait, c'est plongée dans le champ de conscience universelle, dans cette essence beaucoup plus vaste que l'identité. Et c'est de vivre finalement avec un peu la superposition de ces dimensions, avec ces différents registres. Utiliser l'entité et l'ego comme on le disait tout à l'heure, en utilisant le temps horloge pour interagir dans le monde, dans la société, dans la dimension physique. Donc, l'utiliser comme il est. Tu parlais du singe, de la théorie du singe. Ça m'évoque juste cette petite parabole. Le monkey mind, tu vois, le petit singe qui danse dans notre esprit, où on dit que l'esprit, l'ego, est un terrible maître, mais un fantastique serviteur. Donc, l'idée, c'est pas d'annihiler l'ego ou d'en réinventer un autre plus spirituel, mais c'est de ne plus être dominé et dompté de manière inconsciente par cette création de toute pièce qui devient une entité à part entière. Mais c'est de composer avec elle-même pour la vie, tout en étant dans ce champ de conscience beaucoup plus vaste qui peut observer cet ego et observer ses mécanismes automatiques et agir en temps réel sur cette conscience qui permet justement cette fluidification de l'interaction avec l'égocentrisme. Tu avais soulevé un autre point qui était, ah oui, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit de manière durable? Je dirais que là aussi il faut faire preuve d'une grande précaution, dans le sens où lorsque l'on croit avoir compris quelque chose, bah ça y est, on est déjà perdu. C'est plutôt régénérer, et on en revient à l'instant présent, au moment présent, à une découverte, à redécouvrir la vie, à redécouvrir l'instant, moment par moment. C'est plus une régénération de la pensée, une régénération de notre état d'être dans l'instant. Donc, l'état d'éveil, l'illumination, même s'il peut y avoir des prises de conscience extrêmement fortes avec, par exemple, disons, une cérémonie d'ayahuasca. Ben, c'est pas pour ça que dans 6 mois, je vais pas me comporter comme un gros con. C'est justement peut-être comprendre que cet état de présence s'alimente, s'entretient, s'honore dans l'instant présent et s'honore tout le temps. C'est pas quelque chose de fixe et de figé parce que rien n'est figé. Je peux avoir un moment d'éveil dans la vie et reperdre en vigilance et reperdre en lucidité. Et boum, je repars dans mes mécanismes, je repars dans mes schémas limitants, je repars même dans des choses que j'avais réglées il y a 3 ans. Donc, il y a des choses qui peuvent être durables, mais il faut aussi rester humble et sérieux et appliqué et intègre dans notre pratique de ce que serait la présence et dans notre interaction avec la vie de manière consciente. C'est quelque chose qui s'alimente, comme tout se nourrit, comme tout se... c'est presque un jardin auquel je devrais prendre, que je devrais soigner tous les jours, cet état de conscience. Et on pourrait dire donc que l'état d'éveil, une conscience plus vaste, plus unifiée, elle se nourrit, elle s'entretient en permanence et que ça... Son soin serait ces pratiques méditatives ou cet état méditatif. Je suis pas obligé de me mettre en posture formelle, mais admettons dans la discussion que l'on a là, toi et moi, eh ben je suis aussi en train d'entretenir mon état de présence parce que je tâche d'être dans ma pleine perception de notre discussion, dans ma pleine sensibilité et tout en connexion avec des ouvertures de conscience qui ont pu se produire par le passé, mais je l'alimente en tâchant d'être sensible, ouvert, en comprenant qui est Steve dans sa personnalité, dans son ego et dans son fonctionnement, hein, et en utilisant cette entité pour interagir avec ton entité. Mais j'oublie pas derrière que le champ qui nous unifie et qui nous permet d'interagir, toi et moi, ici et maintenant, c'est le même champ et c'est la conscience qui s'expérimente elle-même. Donc c'est une vie à différents niveaux, qui sont pas dissociés, que je n'oublie pas et que j'alimente, que je tâche en tout cas de régénérer moment par moment. Et voilà, donc c'est tout ça pour dire que c'est de l'humilité et c'est pas quelque chose qui se fait en force, mais c'est quelque chose de présent à chaque instant. Et finalement, nous pourrions définir la méditation comme cet état de présence renouvelé moment par moment, quelles que soient les situations de la vie. Là, nous sommes en train de méditer, bien que on soit pas en lotus ou en train de réciter des mantras. Si nous sommes totalement au contact de ce qui est, totalement au contact là de l'autre, nous sommes en état de présence, nous sommes en état de méditer. Et nous pouvons avoir une interaction profonde. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, mais c'est.
C'est ce que je ressens typiquement durant mes séances de sport. Pour moi, je l'apparente clairement à de la méditation. Si et seulement si, évidemment, on fait la séance en question sans stimuli externes. Sans podcast, potentiellement sans musique, sans vidéo. Parce que l'idée, c'est de se connecter à soi-même, à son corps, à ses ressentis, à ses besoins. Donc oui, effectivement, je vois très bien ce dont tu veux parler. Pour arriver sur la fin, Steve, j'ai une question assez importante selon moi. Est-ce que tu as des... pas des recommandations, mais des points de vigilance à de nos personnes qui voudraient effectivement se lancer dans des pratiques comme toi, tu le pratiques. Justement, potentiellement une personne qui peut actuellement être victime de dépression, qui peut traverser une phase compliquée. Conseille effectivement l'expérimentation de ces états de conscience modifiés là à des personnes qui, pour l'instant, effectivement, sont potentiellement, alors je dirais pas instables au niveau cognitif, mais instables au niveau presque émotionnel. Est-ce que ça peut être conseillé ou déconseillé? Et maintenant, j'élargis aussi un peu la question par la suite. Est-ce qu'il y a vraiment des typologies de personnes qui, de façon générale, n'ont pas bénéfice à tester, à éprouver ces états de conscience modifiés là?
Alors déjà, juste je reprends le petit point de ce que tu disais par rapport à être totalement dédié à ce que tu fais. Et effectivement, dans le sport, on peut faire comme n'importe quelle activité, le sport, le voir comme une méditation en mouvement et être totalement présent à ce que l'on fait. Ou on peut être complètement inconscient et passer à côté. Et juste pour dire ce que tu disais par rapport au podcast et à la sursollicitation et au fait que finalement, on soit à la fois partout et nulle part, il y a un très bon entraînement. Une très bonne pratique de la méditation pour dont je fais partie, nos amis citadins, c'est au milieu du chaos. J'en parlais avec Wim Hof, avec qui j'étais il y a quelques temps. Il me disait que lui, c'est ce qu'il faisait. Et moi, j'aime bien le faire aussi en étant au cœur de Paris. C'est s'asseoir au milieu, sur un banc public, avec les travaux, les klaxons, le chaos, et tâcher de d'être aussi en pleine présence au milieu du chaos, parce que c'est super d'avoir une méditation dans les endroits calmes, mais c'est vraiment à favoriser. Mais si je peux pas le transposer dans des situations chaotiques, dans des situations intenses, bah forcément c'est pas si c'est que je suis pas allé finalement au cœur de ce que pourrait être la méditation. Donc la pratique de la méditation dans le sport par exemple, comme tu l'as dit, ou dans le métro ou au milieu des embouteillages, ce sont aussi des moments très propices pour avoir un contact total avec ce qui est sans résistance et tâcher de faire corps avec ce qui est. Voilà, c'était juste pour rajouter ce petit côté où c'est pas forcément que dans le cadre idéal que c'est idéal justement. Tout est bon. Mmh. Tout est bon à prendre à partir du moment où on se positionne comme un témoin silencieux. Maintenant, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de la méditation, on a parlé des plantes médecines. On a parlé très brièvement aussi de la transe. Aujourd'hui, en France, par exemple, notamment sous l'impulsion de Corinne Sembrun, il y a de plus en plus de ponts et d'échanges entre le corps médical et la transe, les transes donc auto-induites, par la danse, par les boucles de son, par les rythmes, donc selon les certaines traditions, notamment les traditions du chamanisme sibérien. Donc il y a de plus en plus d'endroits auxquels on peut aller s'initier, en tout cas dans lesquels on peut aller découvrir différents types de pratiques impliquant des états de conscience modifiés. On a évidemment l'hypnose, on a la sophrologie, on a différents endroits de méditation. Donc déjà, on peut se rapprocher évidemment de spécialistes, de personnes sérieuses pour le faire. Et c'est exactement la même chose pour les plantes médecines. C'est aujourd'hui illégal en France. Alors qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, le bien, le mal, évidemment on va pas débattre de ça. Il y a évidemment aucun sujet sur, enfin, le bénéfice que peuvent nous apporter les plantes médecines est immense. Et pour beaucoup beaucoup de, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup beaucoup d'êtres humains. C'est en train d'arriver. En Australie aussi, ça bouge. En Suisse, c'est légal. Aux États-Unis, notamment en Californie, il y a de plus en plus de patients qui se font traiter, notamment avec la psilocybine ou avec les MDMA, une combinaison des deux, etc. Donc, on a bon espoir que aussi ça arrive avec le cadre nécessaire, légal et médical en France. Mais en tout cas, moi, je ne peux qu'encourager pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de le faire, à être extrêmement vigilant avec la personne, les personnes avec qui vous allez le faire, vous rapprocher réellement de personnes ayant la sagesse, le savoir-faire, l'expérience, la bienveillance pour vous accompagner. Parce que c'est Tim Ferriss qui disait ça d'ailleurs, qui a beaucoup expérimenté, qui a investi pour la recherche sur les psychédéliques aux États-Unis, c'est du nucléaire. C'est-à-dire que oui, c'est extrêmement bénéfique, extrêmement thérapeutique, et ça peut transformer la conscience humaine au niveau individuel et collectif de manière extrêmement profonde et tendre vers beaucoup plus d'harmonie pour le monde. Mais c'est extrêmement puissant. Il faut pas sous-estimer la puissance de ces plantes médecines et de ces états de conscience modifiés. Donc vraiment, vraiment, soyez vigilants. Renseignez-vous, si vous avez pris la décision de le faire, à être dans les cadres les plus sérieux, les plus documentés possibles. Pour ma part, je repars en Amazonie, comme je te disais en off. Je tâche, par exemple, pour ces, en toute humilité, d'aller me rapprocher des experts, aller me rapprocher des personnes qui ont ces savoirs, ces sagesses, depuis des millénaires et qui continuent de transmettre dans la pure tradition pour prendre, notamment l'ayahuasca. C'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup de respect, aussi de la compréhension de tout le spectre culturel qui s'inscrit autour et vernaculaire, c'est-à-dire dans quelle région du monde. Comment est-ce que je vais être en contact avec l'environnement dans lequel je vais prendre les médecines. Il y a tout ce qu'on appelle le set and setting, c'est-à-dire vraiment l'environnement, les personnes qui vont veiller sur moi, les facilitateurs, les gardiens, la manière dont je me prépare avant au niveau de mon corps, de mon esprit, la manière dont j'intègre après. Hein, c'est un ensemble de choses. Donc être très 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 vigilant dans l'endroit, les personnes et comment je vais le faire. Ça, c'est particulier pour les états de conscience modifiés avec plantes médecines parce que l'intensité est totale. Pour la méditation, et comme pour toute forme d'enseignement, et c'est ce que je tâche de transmettre, la vérité est un pays sans chemin, comme disait Jiddu Krishnamurti. C'est-à-dire que il y a ce paradoxe entre, évidemment, nous avons besoin de guides et besoin d'enseignants. mais il faut aussi, et là encore, être vigilant à des personnes qui ne nous formatent pas, des personnes qui nous permettent de toucher à ce que serait l'essence de la méditation sans rentrer dans un formatage en disant « Ah non, mais cette méditation ou ce mantra, il y a que ça qui marche, ou c'est ce mantra-là qu'il te faut, ou si tu fais tant de si, tu vas obtenir ça. » Ça serait pareil d'avoir l'acuité, faire preuve de discernement et de trouver des personnes qui ont une transmission non dogmatique de la pratique méditative. Alors, il y en a, mais voilà, c'est d'avoir en tête que nous sommes, c'est nous les chercheurs. Donc, on a des personnes, on a des voix, on a des principes pour nous accompagner, mais ça va être notre chemin. Et c'est notre chemin personnel de chercheur, d'explorateur, de le mettre en place. Nous serons à la base de cette épopée, de cette expérience vers une transformation de la conscience. C'est chacun de manière individuelle. C'est notre responsabilité si l'on cherche à s'éveiller. Est-ce que j'ai répondu un peu à tous tes points? Est-ce que c'est trop nébuleux? N'hésite pas à me dire.
Et justement, je voulais conclure ce podcast. As-tu déjà un premier pas à mettre en place?
Un premier pas?
On a parlé méditation. Mmh. Un premier pas pour les personnes, peut-être des ouvrages,
oui.
Des livres et des recommandations, des vidéos, des retraites, je sais pas. Une personne qui est motivée suite à l'échange pour dire « Ok, je veux expérimenter ça », par le biais de la méditation ou autre, qu'est-ce que tu conseillerais toi aujourd'hui?
Ok.
Bien sûr, t'es à individualiser, j'en ai conscience.
Ouais, bien sûr. Je conseillerais tout d'abord de faire le pont entre les différents domaines que nous avons évoqués ensemble, c'est-à-dire de se documenter, déjà vraiment aller se documenter aussi bien avec les apports de la science, avec les apports de certains ouvrages et certains documentaires. Il y a plein de choses déjà pour déjà mettre un premier pied dans ce que serait la méditation de manière sérieuse. Je ne peux que recommander encore la lecture d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, c'est un très bon basique. Je ne peux aussi que recommander la lecture des ouvrages, de tous les ouvrages en général de Jiddu Krishnamurti, notamment « Cette lumière en nous », c'est un de ses ouvrages, mais bon, Jiddu Krishnamurti a une approche non dogmatique extrêmement puissante de ce que serait l'authentique méditation. Pour les personnes parlant anglais, le travail de Sam Harris aussi est très bien, très très bien sur la pleine présence. Voilà, donc ça serait des bons basiques de lecture. Et ouais, je pense que commencer comme ça, et en termes de pratique, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, hein, commencer peut-être par la méditation de pleine présence. Pourquoi pas utiliser des applications. Il y a des vidéos aussi sur YouTube qui sont bien accessibles à tous. Alors là, c'est pareil, il faut chercher. Mais en général, si on est plus dans la méditation laïque et non dogmatique, mindfulness, on a moins de risques en fait de divaguer ou de passer à côté, parce que elle est dans sa structure même, elle est même implémentée dans le cadre médical, par exemple à Sainte-Anne ou dans d'autres entités où il y a des gros problèmes de troubles psychiques. La méditation de pleine conscience, elle fait partie de la thérapie aussi pour accompagner les personnes malades de cancer dans différents centres, parce que c'est justement cette perception totale de l'environnement. Et après, on approfondit le travail, mais elle est vraiment accessible à tous. C'est pas du tout du formatage, c'est l'anti-formatage. Pleine présence, mindfulness, un bon départ.
Merci Steph pour ton temps.
Merci pour ton temps et pour ton invitation.
Et as-tu une dernière chose à rajouter, un dernier mot avant de se laisser? Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver pour commencer, si jamais les gens veulent prendre contact avec toi?
Il y a effectivement la possibilité de venir pratiquer ensemble, là ici même au dojo. D'ailleurs, demain, j'accueille un atelier justement d'initiation à la méditation. Donc, je fais régulièrement des ateliers à Paris au sein de mon dojo, qui est situé dans le centre de Paris, dans le quartier d'Opéra. Il y a aussi des stages et des retraites sur ces thèmes au cours de l'année à différents moments. Et puis il y a le suivi personnel que je donne aussi dans ce dojo. Voilà, on peut me retrouver via mes réseaux sociaux, enfin mes réseaux sociaux, j'en ai un en l'occurrence, Instagram. J'essaie d'être simple. En général, c'est là où je communique les moments où il y a des événements, des stages, et où je tâche de transmettre certaines choses. Je dirais que c'est le moyen le plus accessible de communiquer, de rentrer en contact. Voilà. Après, s'il y avait une dernière chose à dire, ce qui me vient spontanément, c'est que nous sommes dans un grand tournant de notre civilisation. Il y a autant de divisions, de souffrances, de violences et de destruction sur notre planète, dans cette terre que nous expérimentons tous en ce moment, que de possibilités nous éveiller. Si on reprend un peu ce principe de yin et yang, d'ombre et de lumière, ou de vase communicant, l'impulsion si énorme que nous avons aujourd'hui de ne plus pouvoir, ne plus supporter cette violence qui nous détruit, qui nous divise, qui détruit tout sur cette planète, aussi bien dans l'humanité que dans tous les autres règnes, animaux, végétaux, on a une impulsion suffisamment forte, on a un tremplin suffisamment fort pour basculer vers autre chose. Donc je ne peux juste envoyer que cette intention, cette prière quelque part du cœur, d'aller, de s'inscrire dans cet éveil collectif. Puissions-nous le faire. Puissions-nous être des maillons de la chaîne, des engrenages de ce grand mécanisme vers, je l'espère de tout cœur, une transformation de notre état de conscience sur cette planète. Et pour ça, c'est un chemin individuel, c'est un chemin de recherche, d'éveil de conscience individuelle qui deviendra collectif. Donc la seule chose que je peux faire, c'est vous dire à tous nos sœurs, à tous nos frères, nous sommes ensemble. Si on a un petit peu d'espace dans nos vies, dans nos cœurs pour le faire, eh bien agissons au quotidien et en conscience. Et transformons ce monde vers beaucoup plus de paix.
Merci pour ces belles paroles, Steph. Merci, et au plaisir de rééchanger, se revoir en vrai, surtout assez rapidement.
Ben, au plaisir, hein. Au plaisir de se revoir bientôt et au plaisir aussi que tu viennes au dojo. Peut-être qu'on se fera une prochaine discussion en direct tous les deux ici. En tout cas, l'invitation est envoyée.
Avec plaisir, je la saisis. À très vite.
À très vite.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources que j'ai pu citer en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt pour un nouvel épisode.